Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Toi, andi, andan. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais-le savoir.
Et oui, du 3 au 23 février, Potpourri Show souligne à sa façon le mois de l'histoire des Noirs à l'antenne en partenariat avec RFI, TV5 Monde et Canal Plus Afrique. Oui, tout au long du mois de février, Potpourri Show vous convie à une série d'émissions spéciales en compagnie des spécialistes, des membres engagés pour la défense des droits des Noirs au Canada et dans le monde. Des artistes, des femmes, des jeunes, des écrivains, des historiens et des professeurs seront à nos micros. Et parmi les priorités des auditeurs, pourquoi toujours tant de clichés envers les Noirs? L'immigration, l'emploi, l'éducation, le racisme, les services sociaux et les services en français. Quelles sont les avancées affectant la vie des personnes issues de la diaspora africaine ou haïtienne? Peut-on être noir et fier et en même temps visiter la colline parlementaire? Une petite bombe. Cette semaine, on en parle. Du 3 au 23 février, Potpourri Show CUT reçoit, bien sûr, des professionnels de RFI, entre autres, Elikia Mbokolo, qui nous présentera son magazine « Mémoire d'un continent », des archives sonores inédites, signées RFI, et des rencontres avec les nouveaux entrepreneurs et artisans qui réussissent au Canada et en Afrique. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Jusqu'au 23 février, joignez-vous à notre équipe ou soyez parmi nos partenaires. Courez la chance de gagner des voyages, des cadeaux. Gracieuseté de nos partenaires. Si vous planifiez un événement, veuillez nous écrire à potpourri@cut.fm. Le mois de l'histoire des Noirs, édition 2019, fête du mois de février, le mois le plus mémorable. Potpourri Show, CUT 89,5 FM, vous donne rendez-vous.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions que vous demandez, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Et oui, notre partenaire en santé, Reflet Salvéo, réalise un sondage pour développer le plan stratégique 2019-2022. Nous vous invitons à participer en grand nombre. Il ne vous prendra que 10 minutes. Je l'ai fait personnellement et c'est très simple. Allez sur le site www.reflet-salvéo.ca. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Bonjour à tous. Welcome to all. Bienvenue à l'édition 2019 du mois de l'histoire des Noirs qui va se passer du 1er au 28 février 2019. Cette année, nous avons choisi comme thème Voix d'émancipation. Voices of Emancipation. Et naturellement, nous croyons que c'est les femmes qui représentent mieux cette voie d'émancipation depuis des temps ancestrales pour ce qui est des communautés noires. Alors nous célébrons, nous porterons nos réflexions sur les femmes de nos vies, sur les femmes qui font en sorte que la communauté puisse bénéficier de leur essor à tout point de vue.
Moderne, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité.
On mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent, la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout cela les empêchait, les rendait aveugles. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Et arrachez votre patrimoine culturel, il n'y a pas d'autre voie.
Vous venez d'entendre Cheikh Anta Diop, le plus grand savant africain du XXe siècle. Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está escuchando Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Eh ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, Campus Saint-Georges, le département d'études langagières, Campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bonjour mesdames et messieurs et bonjour tous les amis qui sont avec nous au Hot House Studio, l'Université de Toronto, Canada, 28e édition du mois de l'histoire des Noirs. Devoir de mémoire, une décennie consacrée aux personnes d'ascendance africaine, 2015 jusqu'à 2024. Édition spéciale tout au long du mois de février. Découvrez les rendez-vous de nos partenaires et si vous avez des rendez-vous, des initiatives ou encore des projections, des conférences, envoyez-nous un message par courriel immédiatement. Et le thème, notre thème à nous, histoire, réalité, enjeux et perspectives d'avenir pour les Noirs de l'Ontario et du Canada. Et le thème du mois de la campagne de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada et les jeunes Canadiens noirs, sans limite, enracinés et fiers. Et je salue bien sûr DJ Devera, Sloan Ballant, production, animation, Eric Adair, avec vous sur www.cut.fm, www.cut.fm. On vous dit bien le bonjour à ceux et celles qui nous écoutent en voiture. Certains seront avec nous dans la deuxième heure. Et bonne route et surtout soyez prudents. Tout au long du mois de février, Popourri Show vous propose des rendez-vous inédits en compagnie de spécialistes et d'historiens exceptionnels de la diaspora africaine et antillaise vivant au Canada, en Haïti et en Afrique. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site www.popourrichaud.com pour revoir nos prochaines émissions et nos invités. Et notre jeu concours aujourd'hui est répondez correctement à toutes nos questions tout au long du mois. Je dis bien, faut répondre à toutes les questions du mois et vous aurez la chance de gagner des prix sensationnels, y compris des voyages. Oui, je l'ai dit. Dans un pays chaud. Et oui, amené à Québec en 1628 par l'envahisseur anglais David Kirk. Alors qu'elle était enfant, cette personne est la première, selon les archives, à être arrivée directement d'Afrique pour devenir le premier ou la première esclave africain ou africaine connue au Canada. Est-ce Harriet Tubman. B. Olivier Lejeune. 3. Ou C. Juan Rodriguez. Et D. Josiah Henson. Je dis bien, amené à Québec en 1628 par l'envahisseur anglais David Kirk, alors qu'elle était enfant, cette personne est la première à être arrivée directement d'Afrique pour devenir le premier ou la première esclave africain connu. A. Harriet Tubman. B. Olivier Lejeune. C. Juan Rodriguez. Ou D. Josiah Henson. Envoyez-nous votre message, votre réponse immédiatement à popourri@cut.fm et bonne chance. Et un grand merci à tous nos amis invités, artistes, partenaires, donateurs, commanditaires, beaucoup, beaucoup de réactions. Docteur Amadou Ba, historien, qui était des nôtres lors du lancement de notre première émission. Madame Fété, Ngara, Batoiré, Kim Biobi, qui était des nôtres la semaine dernière, professeur Kassereka, Kavwa Irei, qui sera des nôtres un peu plus tard, docteur Youssouf Kalogo, qui est un ingénieur francophone dans la région de Toronto, sera des nôtres la semaine prochaine. Et tout au long du mois, nous faisons notre façon de célébrer un artiste haïtien qui est nominé pour les prix Juno 2019, l'artiste Wellesley, qui habite à Montréal. Et il est nominé pour son album Rapadou Créole. Obed Lamy, notre correspondant chroniqueur, qui nous attend à chaque semaine ou qui nous envoie des messages à chaque semaine en direct de Port-au-Prince en Haïti. Amandine Gay, professeure Gertrude Miandak sera des nôtres aujourd'hui. Elle enseigne à l'Université York, Collège Glendon. Elle fait des choses très intéressantes, surtout pour l'avancement des droits des femmes francophones. Désirée Caboret, Elikiam Bokolo, l'artiste Yao de l'Ontario qui fait sa tournée en Ontario pour les prochaines semaines et prochains mois. Les lauréates du mois de l'histoire des Noirs, qui sont-elles? Carole Noël, qui nous propose un livre sur l'histoire des Noirs au Canada. Aïcha Koné, Marc Cormier, qui nous envoie chaque semaine ses chroniques. Malheureusement, il ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Babette de Rosière, du soleil dans vos assiettes. Merci à toute cette équipe fantastique. Et encore une fois, je vous rappelle que notre partenaire en santé, Reflet Salvéo, réalise un sondage pour développer le plan stratégique 2019-2022. Nous vous invitons à participer en grand nombre. Il ne vous prendra que 10 minutes. Je l'ai fait personnellement ce matin et c'est très simple. Allez sur le site www.reflet-salvéo.ca. C'est très important. Le menu en ce dimanche 10 février, être noir n'est pas toujours bien vu sur la colline parlementaire. On parle bien la colline parlementaire à Ottawa, au Canada, et oui, une petite bombe a secoué l'establishment politique cette semaine. On en parle. Professeur Kassereka Kavwa Irei, qui enseigne les littératures francophones d'Afrique et des Antilles, philosophie africaine, théorique et postcoloniale à l'Université d'Ottawa, sera des nôtres. Il a aussi écrit plusieurs livres et une de ses conférences s'intitule « Reconstruire la philosophie africaine à la recherche de nouveaux lieux d'ancrage d'une pensée du futur ». Très intéressant, vers 11h30, j'espère que vous nous écoutez. Il est actuellement, je pense, en Allemagne pour une année sabbatique. Nous recevrons professeur Gertrude Mianda, un grand merci. Elle est professeure agrégée, études des femmes et des genres, sociologue, féministe, africaniste, chercheuse francophone africaine et directrice de l'Institut Harriet Tubman pour la recherche sur l'Afrique et ses diasporas. Au Collège Glendon, à l'Université York, quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes africaines en termes de préjugés et de discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique? On en parle. Et je vous rappelle que malheureusement, la conférence du 14 février à l'Institut Harriet Tubman est annulée. Et donc, on vous fait signe aussitôt qu'on reçoit d'autres informations. Et invitation au voyage sur le continent africain, découvrez les proverbes, la culture et la sagesse de ce continent avec l'inimitable chanteur, comédien, humoriste d'origine camerounaise et marseillais d'adoption, Saïdou Abacha, que j'aime bien. Amandine Gay, réalisatrice et militante franco-canadienne, donne la parole aux femmes noires dans un film saisissant « Ouvrir la voie, sexualisée, discriminée, invisible ». Des femmes noires s'expriment et évoquent leur parcours de vie, mais aussi leur lot quotidien de clichés et de discrimination. La quatrième édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie s'est tenue du 1er au 3 février à Paris. Paris Expo, Porte de Versailles, un vrai festival de découvertes culinaires qui a connu un vif succès grâce à la première femme chef de cuisine née en Guadeloupe. Elle est animatrice de télé. Babette de Rosière sera des nôtres pour nous donner une recette magique des Antilles, à ne pas rater. Et pourquoi certains noirs et surtout les femmes noires n'acceptent pas la couleur de leur peau? Pourquoi escale en Haïti avec des femmes qui ont recours à des produits cosmétiques afin d'améliorer leur teint foncé? Obed Lamy, notre éditeur en chef Info Citoyen Port-au-Prince, Haïti, nous fait découvrir la fondatrice de d'un nouveau mouvement de femmes fières, être femme fière. Haïtien, fier, noir, on en parle. Édition 2019 des Victoires de la Musique, étiez-vous là? Eh oui, ça s'est déroulé vendredi dernier à la scène musicale à Paris. Quels sont les gagnants des Victoires de la Musique 2019? Découvrez l'ensemble des résultats avec nos partenaires médias RTL à Paris. Février, le mois de l'histoire des Noirs, et il est reconnu officiellement par le gouvernement fédéral depuis 1995. Février est l'occasion de célébrer le patrimoine des traditions, des réalisations et la culture des populations et de la diaspora d'ascendance africaine. Tous les ans, Popourri Show rend hommage à des personnes, à un lieu ou une histoire qui met en valeur le patrimoine africain. L'expérience, les réalisations des Noirs sont trop souvent passées sous silence dans les livres d'histoire et les musées. Et cette année, Popourri Show met en lumière le récit, en grande partie oublié, des premières colonies. Et nous braquons nos projecteurs sur les jeunes, les femmes, les experts noirs et francophones de ce grand pays qu'est le Canada, le beau Canada. Mais est-ce que ce pays connaît son histoire? Alors j'espère que nos experts vous aident ou nous aideront à cheminer dans cette quête sur la mémoire de cette histoire trop souvent mise au rencard par nos institutions au Canada.
La première personne de race noire à fouler le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Canada serait Mathieu Dacosta, un homme libre selon toute vraisemblance, employé comme interprète pour Samuel de Champlain. Le roi Louis XIV autorise officiellement l'esclavage en Nouvelle-France, permettant la pratique régulière du travail forcé dans la colonie. Marie-Joseph Angélique, une esclave, est accusée d'avoir mis le feu à la maison de son propriétaire à Montréal. Bien que l'on ne pourra jamais démontrer hors de tout doute sa culpabilité, Angélique n'échappera pas à sa tragique destinée. En pleine Révolution américaine, les Anglais promettent liberté, terre et droits aux esclaves et aux Noirs libres en échange d'un service militaire. Des migrants loyalistes noirs viennent alors fonder une communauté du nom de Birchtown, non loin de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Des centaines de soldats blancs démis de leurs fonctions se retrouvent bien malgré eux en compétition avec leurs voisins noirs, moins bien payés. Il en découle la première émeute raciale au Canada. La loi impériale de 1790 généralise l'esclavage en Amérique du Nord britannique. Victime d'une discrimination généralisée, près de 1200 loyalistes noirs quittent la Nouvelle-Écosse pour la Sierra Leone, en Afrique. John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, dépose un projet de loi visant à mettre fin à l'esclavage dans la colonie, lequel reçoit la sanction royale le 9 juillet. Bien qu'il n'interdise pas entièrement l'esclavage, le projet de loi en favorise l'interdiction progressive. Un groupe de près de 600 Jamaïcains exilés, connus sous le nom des Marrons, accoste à Halifax. Plusieurs participeront par la suite au renforcement de la colline de la citadelle. Des milliers de volontaires noirs luttent aux côtés des Anglais pendant la guerre de 1812. Entre 1815 et 1860, des dizaines de milliers d'Afro-Américains fuyant l'esclavage viennent chercher refuge au Canada en empruntant le chemin de fer clandestin. L'esclavage est aboli dans toutes les colonies britanniques par la promulgation d'une loi impériale qui entre en vigueur le 1er août 1834. Marianne Schad met sur pied le Provincial Freeman, journal appuyant les militants anti-esclavage et la campagne pour les droits des femmes. Elle fondera plus tard une école pour les réfugiés noirs à Windsor. Plus de 800 Noirs de Californie viennent s'établir en Colombie-Britannique. Leur défense de ce territoire britannique conduit à la formation de la première et la seule milice composée exclusivement de soldats noirs. Après s'être heurtées au rejet dans leur ville d'adoption, Montréal, des femmes américaines s'unissent pour fonder le Colored Women's Club. Le groupe appuie la communauté noire dans la petite Bourgogne. En 1909, plusieurs centaines de Noirs de l'Oklahoma viennent s'établir dans les prairies canadiennes. Deux ans plus tard, on lit dans certains journaux de Winnipeg que le gouvernement du Dominion s'apprêterait à interdire l'immigration de ces nègres, tels que l'écrivent les journalistes à l'époque. De hauts dirigeants militaires autorisent la création du 2e bataillon de construction. Celui-ci, formé exclusivement de soldats noirs, n'est toutefois pas autorisé au combat. Les soldats servent plutôt en France comme bûcherons au sein du corps forestier canadien. Plusieurs centaines de Noirs canadiens s'intègrent à la collectivité de Strathcona dans l'est de la ville de Vancouver. Barbara Howard mène l'équipe canadienne de relais à l'argent et au bronze lors des Jeux de l'Empire britannique de 1938 en Australie. L'armée canadienne rejette initialement plusieurs centaines de volontaires noirs. Devant une guerre interminable, toutefois, on finit par accepter de nombreux Canadiens de race noire au sein de l'armée régulière. C'est à l'époque de Tommy Douglas qu'est adoptée la Charte des droits de la Saskatchewan, première loi générale canadienne interdisant la discrimination. Jackie Robinson, joueur noir des Royaux de Montréal, renverse les barrières. Viola Desmond est mise en état d'arrestation pour avoir pris place dans un siège du rez-de-chaussée au Roseland Theatre, une section réservée aux Blancs. Cette affaire provoque une vague de protestations qui déboucheront en 1954 sur l'interdiction légale de la ségrégation en Nouvelle-Écosse. Recruté auprès des As de Québec, Willie O'Ree est le premier hockeyeur noir de la LNH. Il dispute son premier match aux côtés des Bruins de Boston face aux Canadiens de Montréal. Poussé par le racisme anti-noir et une volonté de renouveau urbain, la ville d'Halifax menace d'éviction les résidents noirs propriétaires du quartier qui refusent de vendre volontairement leur propriété et de déménager. Le gouvernement canadien annonce la première politique canadienne de multiculturalisme, vouée à créer une société plus inclusive qui accueille à bras ouverts les immigrants qui façonnent sa diversité. Au cours des quatre décennies qui suivront, les Canadiens seront témoins des innombrables contributions des Noirs dans toutes les sphères, notamment en politique, dans les sports et dans les arts.
And I am Babylon, weighing 250 pounds. And I right now, dreadlocks with 150 pounds, secure the force directly.
Mois de l'histoire des Noirs, édition 2019, 28e édition à l'antenne, une décennie consacrée aux personnes d'ascendance africaine. Édition spéciale jusqu'au 24 février sur CUT 89,5 FM. Histoire, réalité, enjeux, perspective d'avenir pour les Noirs de l'Ontario et du Canada.
Brothers and sisters, today. What are you doing up there?
En 2018 était lancé un nouveau mouvement en Haïti, Noir et Fier. Cela devient monnaie courante dans les pays noirs que les femmes aient recours à des produits cosmétiques afin d'améliorer leur teint foncé. En Haïti, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Pour y remédier, le mouvement, nouveau mouvement fondé Noir et Fier, s'invite au débat en disant non à la dépigmentation de la peau. Le lancement officiel du dit mouvement en Haïti a eu lieu en octobre 2018. Le mouvement ne concerne pas que les femmes. Eh oui, il vise aussi les hommes, les jeunes, moins jeunes, adolescents et les enfants. Leur vision, c'est d'être le plus grand réseau de sensibilisation sur la question qu'est l'estimation de soi et de la valorisation de la peau. Noir et Fier entend donner plusieurs formations différentes. Des ateliers et aussi des conférences pour inciter les gens à accepter leur teint foncé. Ce n'est pas un mouvement contre les personnes ayant le teint clair, Notre objectif, c'est d'éradiquer la dépigmentation de la peau. Et notre ami et correspondant à Port-au-Prince, Obed Alami, a rencontré l'auteur de cette phrase, Stéphanie Charles. Elle est journaliste, fondatrice du mouvement Noir et Fier en Haïti, non à la dépigmentation de la peau.
Le marché dans la rue, il y a des gens qui saisissent. Les OM me disent, je cherche un noir pour me faire tembler, je vais jouer un gars de bel petit monde, pas changer de couleur, pas ceci, pas cela. Pour montrer que les gens carence. Comme si moun nous considérons qui nous yo moun qui t'a doué kembe couleur wa le plus souvent moun sa wa abduko parce que tout simplement yo stigmatisé par société. Je dis en 2019 personne pa ka di que yo wa tout moun noir vrai. Il pas vrai parce que ni jeune femme ni jeune garçon tout entré dans phénomène nou ta ka relé douko wa.
Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ou bien est-ce que c'est cette problématique qui vous a inspiré de créer ce mouvement Noir et Fier? C'est quoi l'objectif de tel mouvement?
Le mouvement, avant tout, c'est Noir et Fier, non à la dépigmentation. Il ne faut pas oublier non à la dépigmentation. Et ce qui m'a inspiré, j'ai été en Afrique en 2017, en Guinée-Conakry spécialement. Et puis, je me regardais comme si Jean Mounio, yo Abduko, yo gros belle couleur, mais yo peut-être Jean société a stigmatisé, m'a toujours approché avec stigmatisation ça cap va le terrain et puis moun yo choisi de couleur vin led et puis me dit pour ça moun yo gon couleur comme ça et puis yo choisi a dépigmenter yo choisi abduko et puis l'homme vini bon ici moi c'est même bagaille là moun yo abduko yo pas gain estime de soi et n'importe ça moun di rive sou yo affaibli si moun nan di yo led automatiquement yo croy yo led et puis me dit li t'a bon pour bon ici t'a gon mouvement qui là pour encadrer moun sa yo des moun que société a dit qu'il est des moun que société a longé doit sou yo di yo gen côté yo pa ka arriver gen des limites yo gagné puis me dit t'a bon pour gagner un mouvement comme ça qui là pour recueillir moun sa yo et pour faire moun yo reprendre confiance dans tête yo pour dire moun sa yo c'est vrai ou noir c'est vrai ou noir ou bien blé marin j'ai été carré yo mais ça li pa ka retirer rien dans moun que yo le mouvement en soi c'est pas un mouvement pour nous dire nous racistes ou pas noir et fier c'est pas pour nous dire n'a valorisons couleur peau plus qu'on l'autre ou bien pour nous dire noir supérieur avec moun qui peau clair tout mais l'essentiel c'est pour nous dire moun yo on est de la race noire et qu'il faut être fier.
Alors, justement, est-ce que le fait d'être noir pose un problème d'intégration sociale ou bien est un obstacle à la réussite aujourd'hui en Haïti?
Certaines fois, c'est un obstacle à la réussite, surtout professionnelle en Haïti, parce que de nos jours, pour être présentatrice à la télé ou participer à un sport publicitaire, il faut avoir le teint clair. Malheureusement, c'est ça. Comme si nous nous gardons sous d'accord dit couleur bagage intellectuel à mettre là mais c'est couleur avant tout pour ta au devant de la scène faut ou bon gens pouyer faut qu'ou sexy faut que cheveux longs faut blonde des bails comme ça comme si qui frustre moun ki noir et tout.
Alors c'est dire que on est victime de discrimination dans son propre pays.
Justement, c'est tout ça on a pensé mettre comme si devant pour nous dire moun yo on stop hypocrisie on font campel. On d'accord nous c'est tineg noué, on d'accord tête nous green, mais pendant temps ça, tout pendant tête nous green, pendant cette tineg noué, nous gagnons pile capacité.
Le mouvement Noir et Fier, non à la dépigmentation, se propose en quelque sorte de réclamer et une sorte de fierté que d'être noir, mais aussi de combattre ce phénomène de dépigmentation. Alors, qu'est-ce que vous faites en termes d'activité?
Et en termes de contenu, nous travaillons sur l'estime de soi, nous aidons Mounio. Reprendre confiance dans tête yo. Nous fait formation et sensibilisation non jeunesse yo parce que nous ciblé la jeunesse en pile avec en dans l'église et pour qui ça c'est parce que ti moun sa yo nan bas âge yo c'est yo même qui atteignent plus sensibilisation sous dépigmentation pour faire moun yo connait mais qui maladie ka plan yo lè ou douko et puis faire connait yo pas besoin rive nan prend maladie quoi dans tête ou kembe couleur ou estime et puis
CIUT 89.5 Toronto.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89.5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Merci, bon Dieu. Gardez qui sont la misère. Gade ki sa la nati pote pou nou. La pli tombe, ma yi pousse. Touti moun ki koukou yo prale manche. On nou danse koukou, on nou danse petro. Papa bon je gade ki son la mise fini pou nou. Mise a fini.
Mesdames, Messieurs, nous écoutons la belle voix de Wesley, Haïti, Montréal, nominé au prochain Juno 2019. Merci, bon Dieu, la pluie, la tombée, que j'aime bien. Son groupe Wesley Ben, composé de 11 musiciens venus d'horizons variés, alliant influence reggae, rock, afrobeat, groove, un mélange forcément fertile pour faire danser, chantonner, siffloter. Wesley, nominé pour le prochain Juno 2019, artiste tout au long du mois de février dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
L'Afrique, Afrique, Afrique, Afrique. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent riche matériel, touristique, panoramique. Très bien. Mais malgré son immense richesse, nos pays sont victimes du sous-développé, des endettés. Vers l'Occident, nous passons notre temps à faire des emprunts financiers pour soi-disant venir faire des investisseurs. Mais une fois que cet argent arrive dans nos pays, il est utilisé individuellement au lieu d'être utilisé collectivement. Musique!
Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goto te wima modan yelere. Yimo begite forondouma ko nyairi. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus.
Je suis journaliste, je suis collaboratrice à diverses émissions de télé et de radio, animatrice de la série historique Québec sur les ondes de Télé-Québec. Je veux utiliser ma voix pour changer le monde au bénéfice des femmes. Comment? Ben, en attirant l'attention sur les injustices qui perdurent à l'égard des femmes et aussi en essayant de convaincre les gens que il faut passer à l'action. Ça fait des décennies qu'on est dans les constats. On passe aussi beaucoup de temps à dire aux femmes que c'est de leur responsabilité d'adapter leur propre comportement si elles veulent occuper la place qu'elles méritent dans la société. Moi, ce que je veux dire aux hommes, aux femmes et surtout aux gens de pouvoir, que ce soit en politique ou dans les milieux d'affaires, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons tous faire pour changer les choses, égaliser les chances et vraiment permettre aux femmes de prendre leur place dans la société. Donc, c'est pas seulement aux femmes de changer, c'est à l'ensemble de la société et on a tous une responsabilité en ce sens.
Chaque semaine, écoutez les magazines de RFI.
28e édition du mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM. Histoire, réalité, enjeux, perspectives d'avenir pour les Noirs de l'Ontario et du Canada. Au 19e siècle, 20e siècle, des centaines d'Afro-Américains ont quitté les États-Unis à la recherche d'un endroit où ils pourraient s'établir en paix et vivre en communauté loin des lois racistes de l'oppression culturelle aux États-Unis. Certains espéraient trouver de meilleures possibilités d'emploi ou tout simplement la liberté. Comptant parmi les premières colonies noires de l'Ouest canadien, Amber Valley en Alberta a vu le jour grâce à la persistance d'agriculteurs afro-américains de l'Oklahoma qui trouvaient répressives et injustes les lois de cet État. À cette époque, l'Ouest canadien s'ouvrait et recrutait activement des colons dans le Midwest américain. À son apogée, Amber Valley comptait 300 habitants de la communauté et avait sa propre équipe de baseball entièrement noire. Sa population aurait pu être beaucoup plus importante si le gouvernement canadien avait mis en place des mesures favorisant la venue de parents et d'anciens voisins restés en Oklahoma. En Saskatchewan, Silo a été la toute première colonie noire de l'Ouest canadien. On y trouve aujourd'hui le seul cimetière noir de la province. Février est l'occasion de réfléchir à la relation entre l'histoire des Noirs et le monde qui nous entoure. Nous devons poursuivre la lutte contre le harcèlement racial au travail ou dans notre communauté et continuer de travailler avec nos alliés à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des lois sur l'équité en matière d'emploi. Nous devons aussi prendre conscience de l'histoire qui s'écrit et tenter d'infléchir son cours en créant un avenir meilleur dont nous pourrons être fiers. Je vous invite, mesdames, messieurs, à vous informer sur les activités organisées par notre émission, mais aussi par nos partenaires en allant sur notre site www.popourichaud.com. Et nous avons une petite bombe cette semaine sur la colline parlementaire, justement, avec des visiteurs d'ascendance africaine qui faisaient leur tournée, qui visitaient les parlementaires sur la colline parlementaire à Ottawa cette semaine. Quelle est cette bombe ? On en parle peut-être avec nos invités, mais promis, avant la fin de l'émission. Et n'oubliez pas notre question du dimanche. Amenée à Québec en 1628 par l'envahisseur anglais David Kirk, alors qu'elle était enfant, cette personne est la première, selon les archives, à être arrivée directement d'Afrique. Quel est son nom ? A. Harriet Tubman. B. Olivier Lejeune. C. Juan Rodriguez. D. Josiah Henson. Allez, des cadeaux, des voyages très intéressants, sans sas, vous attendent. popourri@cut.fm. Et oui, dans un instant, je vais passer à notre premier invité du dimanche, professeur de littérature francophone, Université d'Ottawa. Il est né en 1969 à Kavigou, en République démocratique du Congo. Il a fait ses études en philosophie à dans plusieurs universités d'ailleurs en Afrique, mais aussi à Namur, Université catholique de Louvain, et Queen's University à Kingston, au Canada. Il est actuellement professeur de littérature francophone d'Afrique et des Antilles, philosophie africaine, théorie postcoloniale à l'Université d'Ottawa. Et je pense qu'il est quelque part en Allemagne, une année sabbatique, je pense. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous accueillons le professeur Kasereka Kavuairei. Ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, cher professeur. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Oui, alors j'espère qu'on va bien vous entendre parce que je pense que ce n'est pas très clair. Alors, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif et vous donnez souvent des conférences sur des thèmes touchant l'Afrique et sa diaspora et la francophonie. Mais avant de parler de vos œuvres et aussi peut-être de vos projets, quel regard portez-vous sur le mois de l'histoire des Noirs?
de moi de l'histoire des Noirs. Oui, c'est un mois, en fait, qui, je crois qu'il mérite d'être souligné au cours de 12 mois, tout au Canada précisément, comme aux États-Unis d'ailleurs. Si la même chose a lieu, c'est d'abord, je dirais, une manière, en fait, de remarquer et de noter qu'il y a des Noirs ou des Africains qui vivent à côté de nous, parmi nous et avec nous, et qui sont justement là pour contribuer au projet, au grand projet canadien, justement, là, sa spécificité dans la diversité. Donc, c'est d'abord cela, mais aussi en même temps, comme on dit, histoire, justement, le mot de l'histoire des Noirs, ceci, un moment, il faut peut-être repenser à la manière, justement, dont ces gens sont arrivés au Canada ou en Amérique du Nord, justement. Les histoires dont ils sont porteurs, les cultures dont ils vivent et qui donnent sens en partie à leur vie, et sans lesquelles, en fait, sans lesquels on ne pourrait pas tout à fait arriver à construire une communauté avec eux, et grâce auxquels aussi ils nous apportent quelque chose de particulier justement au projet, au grand projet canadien.
Mais vous savez, même dans le corps, tout en respectant mes collègues qui sont dans le corps enseignant, y compris dans certaines universités, on fait pas mention tellement, même dans les curriculums, dans ce qu'on enseigne à nos élèves aujourd'hui, sur ce passé et la contribution et l'arrivée des Noirs au Canada. On parle des Noirs toujours en faisant référence à l'immigration récente. Et on oublie qu'il y avait des Noirs pendant des siècles. On est rendu à 3e, 4e, 5e génération de personnes de race noire qui vivent sur notre territoire. Mais même dans le monde de l'éducation, et c'est très important là, dans le monde de l'éducation, les enseignants, les professeurs omettent dans leur cours cette histoire, ce côté historique des Noirs et leur contribution. Comment expliquer ?
Oui, je crois que ça pourrait s'expliquer de plusieurs manières là. La première, ça pourrait être celle-ci. C'est que peut-être, par exemple, que dans les universités ou même les écoles secondaires au Canada, justement, les gens qui enseignent, qui les dirigent, n'ont pas bénéficié d'un enseignement consistant sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique. Cela signifie que sur ce point-là, au niveau des écoles secondaires comme de l'université, il faut renforcer cet enseignement sur, justement, l'histoire de l'Afrique, la manière dont les Africains sont arrivés en Amérique du Nord, et ce n'est pas seulement au XXe siècle, comme vous venez de le dire. Donc, il y a cela comme première piste pour essayer de comprendre cela. Mais la deuxième piste me semble plus assez même délicate, on pourrait dire, parce que quand on regarde dans le monde d'aujourd'hui, on constate qu'il y a tout de même un certain silence souvent sur l'Afrique, même dans les médias, essayez de voir dans les médias. Sur l'Afrique, on ne parle pas tellement. Quand on en parle, c'est quand ça ne va pas. Et plus profondément encore, si on essaie de voir dans l'histoire même de la pensée occidentale, on se rend compte que depuis, par exemple, le XVIIIe siècle, il y a une sorte d'effacement du noir. Alors même que les Noirs, depuis le XVe siècle, contribuaient fortement, justement, à l'avancement de cette civilisation.
Et là, c'est très important ce que vous dites, parce que pour se donner bonne conscience, je regarde le nombre d'activités à chaque année qui pullulent les réseaux sociaux. On voit des organismes, monsieur, madame, tout le monde, certains conseils scolaires qui organisent des activités culturelles, bien souvent exotiques. Bien souvent, c'est du folklore, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment un vrai débat profond pour comprendre l'origine du mois de l'histoire des Noirs. Je trouve ça incroyable.
Oui, je suis d'accord avec vous sur cette folklore, justement, de mois de l'histoire des Noirs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, mais il y a peut-être aussi une part de responsabilité de nous autres Noirs africains, justement, là. C'est peut-être qu'il nous manque, justement, aussi une organisation pour pouvoir justement peser sur les gens qui gèrent les institutions, qui font les programmes, ainsi de suite. Je vois que dans certaines universités qui nous entourent, on a déjà créé, par exemple, des chaires pour le monde arabe, le monde ici, ainsi de suite, mais des chaires pour l'Afrique, je n'en vois pas encore, justement, là. Et ça pose le même problème. Finalement, c'est quoi ce problème qui fait que sur l'Afrique, on ne crée pas grand-chose, alors que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que, par exemple, dans l'histoire de 2050, un francophone sur 10, même au Canada, je ne sais pas, pourrait être, je ne sais pas, un Africain, ainsi de suite. Donc la francophonie canadienne vivrait quand même beaucoup de ces francophones qui viennent d'Afrique. Donc là, il y a un très grand problème. Il y a malaise en même temps pour moi, parce que je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi. L'Afrique aujourd'hui, par exemple, c'est un continent ressources, donc tout le monde encore le dit dans les études économiques, ainsi de suite, je ne sais pas, la population en 2050, il y a les ressources, ainsi de suite. Mais en même temps, justement, quand il y a des choses, quand on doit réfléchir sérieusement sur l'Afrique, ça n'a pas lieu. Pour cela que je dis, peut-être nous-mêmes qui devons nous organiser et essayer de peser davantage au niveau du Canada face à ce film civil entre les forces.
Alors,
les Africains, les Noirs, oui.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites et je veux rappeler aux gens qu'en 2019, mesdames, messieurs qui nous écoutez sur Internet partout, en Afrique, à l'île Maurice, en Haïti, moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'on fait la promotion du Canada comme un pays accueillant qui ouvre ses bras envers les réfugiés, envers des personnes de toute catégorie, de toute nationalité. Cette semaine, il s'est passé une petite bombe sur la colline parlementaire. En 2019, la Fédération des Canadiens noirs a dénoncé que plusieurs des participants à un événement qui s'est déroulé lundi sur la colline parlementaire, ça c'est au sein du gouvernement fédéral, un événement décrit comme raciste. Il y a des employés qui ont dit que les gens qui visitaient, les gens de personnes d'ascendance africaine, c'était des gens à peau foncée. Et donc, ils ont porté plainte au service de protection parlementaire. Ils veulent avoir aussi une rencontre avec Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur Trudeau. Et ça fait boule de neige partout dans les médias, on en parle. Moi, j'arrive pas à comprendre que les gens qui travaillent sur la colline parlementaire n'arrivent pas à saisir l'importance de ce mois des visiteurs noirs qui visitaient la colline parlementaire et on appelait ces gens de peau foncée.
Oui.
Incroyable, en 2019.
Oui, oui. Et cela n'est peut-être aussi que la pointe de certains climats qui peut à un moment donné émerger ici et là, justement. Vous savez, je disais qu'il y a, ça reste encore, justement, quelque chose qui est difficile à comprendre. Or, la seule manière de passer, justement, ce langage pareil qui est dégradant, c'est de mettre l'accent sur la connaissance de ce que sont ces gens, justement, là. Tu sais, leur contribution, finalement, à l'histoire même du Canada, à l'histoire de l'Amérique et à l'histoire même de l'humanité. Je crois que ça nous manque très fortement sur ce point.
Oui.
Il faudrait vraiment qu'on mette l'accent là-dessus pour que les gens, justement, voient en soi à cet autre, justement, insemblable, quelqu'un qui participe à la même humanité, qui a les mêmes droits que les autres. Parce que c'est aussi sur ce point-là qu'il faut insister. Vous avez parlé au début de l'équité du travail, justement. Là. Or, comment j'essaie d'observer souvent la diversité dans certains milieux, que ce soit au Canada ou à l'extérieur, je remarque justement qu'il manque un peu cette équité, même la considération. Quand vous arrivez dans un milieu, vous vous rendez compte que telle catégorie de personnes qui vient de tel endroit est juste concentré dans un seul type de travail que les autres ne veulent pas faire, ça joue sur la manière dont on va les percevoir, dont on va les comprendre.
Et là, vous m'amenez justement dans un autre élément, sur un autre sujet, c'est l'aspect économique. Et on sent que les gens qui participent, surtout les jeunes, je les applaudis, ces jeunes leaders, ils sont vraiment très courageux. Et il y avait une cérémonie avec M. Trudeau, Premier ministre du Canada, et tant d'autres parlementaires. Et tout le monde faisait des éloges envers la communauté noire, par-ci, par-là. Et par contre, il y a un jeune leader qui, lui, a insisté sur l'aspect économique. On l'écoute immédiatement.
Je pense que c'est très important de reconnaître que le premier ministre, Justin Trudeau, a pris le temps pour la communauté noire. Mais en même temps, la communauté noire doit profiter de cette occasion pour se constituer, se rassembler et vraiment devenir une force, non seulement socio-économique, mais également politique pour avancer la cause des différentes communautés noires.
Vous êtes d'accord avec ces propos?
Oui, parfaitement d'accord avec lui. Il va dans le sens justement qu'il essayait de développer là.
Oui.
Donc pas seulement économie, politique. La seule manière, je crois, que le seul moyen que nous avons justement, un moment donné de peser et de aussi que le clan tienne compte de notre présence. Et qu'ils sont là, ils sont porteurs aussi d'un projet, justement, qui d'ailleurs n'est pas uniquement un projet qui sera noir ou africain, mais c'est un projet qui apporte quelque chose, justement, au projet commun canadien. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui, cette organisation politique, économique, et ainsi de suite. Et là, il faudrait essayer de dépasser les gens d'organisation qui existent aujourd'hui. C'est qu'il y a des organisations, je ne sais pas, des Noirs ou des Africains au Canada, mais qui ne collaborent pas ou qui n'ont pas une vision justement articulée du Canada dans lequel ils sont inclus.
Je rappelle aux gens que je suis en compagnie avec le professeur, le grand professeur de littérature francophone à l'université francophone et antillaise à l'université d'Ottawa, professeur Kasereka Kavwa-Irehi. Et vous avez animé une conférence en 2015. Vous savez, nous avons des antennes un peu partout. Et cette conférence est intitulée « Reconstruire la philosophie africaine à la recherche de nouveaux lieux d'ancrage d'une pensée du futur ». Un titre que j'aime bien. Expliquez-nous en 2 minutes ce concept.
Pour reconstruire la philosophie africaine. Oui, je pourrais très simplement partir de ce que, en essayant de voir ce qu'a été la philosophie africaine telle qu'elle est née, par exemple, la philosophie africaine contemporaine au Congo avec le livre du Père Tempels, Philosophie Bantou, et qui a surtout, qui est surtout émergé dans les années 70. Avec le régime, ce qu'on appelait philosophie, c'est-à-dire, je pourrais dire, la traduction en philosophie, justement, de ses visions du monde, tout simplement, mais sans une articulation profonde. Alors, à partir de 70, les philosophes africains ont mis l'accent sur les conditions de possibilité, donc des conditions théoriques pour créer une philosophie africaine. Et on arrive en 90, j'ai remarqué que la philosophie africaine garde un grand silence sur toutes les crises sociales et politiques qui ont lieu actuellement au Congo. Alors je me dis là, il faut la reconstruire. Oui, aux conditions théoriques, mais il faut que la philosophie africaine aujourd'hui tende la main ou aille vers ces organisations, les mouvements citoyens des jeunes par exemple, qui jouent un grand rôle dans la dimension politique de la prise de conscience historique. Il faut que les philosophes africains essaye de voir justement les luttes que mènent les femmes en Afrique pour, à partir de là, élaborer une pensée. Il faut que les philosophes africains essayent aussi d'analyser pratiquement le vécu. Les chansons des jeunes africains aujourd'hui traduisent un espoir, même si elles dénoncent, elles sont tentées de traduire un espoir pour l'Afrique autre. Mais tout ce vécu-là n'est pas suffisamment pris en charge par les philosophes africains. Donc, s'ils veulent aujourd'hui s'inscrire dans la dynamique actuelle en Afrique, c'est ces jeunes qui veulent un futur radieux, il faut que les pensées manières, justement, de se rapporter à ce que vivent les gens. Pas seulement penser chose que c'est pas aux choses de l'être à tant qu'être, je ne sais pas quoi, aux transcendantaux, et ainsi de suite, mais partir du vécu des Africains, chercher dans ce vécu-là quotidien ces chansons, les signes de l'espoir qui les fait vivre.
Et oui, alors il y a beaucoup, beaucoup de titres, de livres, de thèmes que vous avez traités. Vous avez eu aussi le prix de l'impasse pour votre livre « Christianisme africain et imaginaire politique », collection de documents pour l'histoire des francophones, très intéressant. En 2018, donc l'année dernière, « Y en a marre, philosophie et espoir social en Afrique ». Reconstruire la philosophie africaine à la recherche des lieux d'ancrage d'une pensée du futur en 2015 et le roman comme miroir critique du droit, une lecture de ces fruits si doux de l'arbre à pain de Chikaya, alors Yu Tamsi. Alors, très intéressant, j'aimerais vous revoir, vous avoir à nos antennes pendant le mois de la francophonie comme partenaire, parce que vous avez des thèmes qui très larges, qui pourraient intéresser nos auditeurs, notre auditoire, et surtout les jeunes, à mieux comprendre l'Afrique et faire ce lien, ce va-et-vient que j'aime bien dans vos ouvrages, dans vos écrits, dans votre parler, c'est comprendre ce continent africain qui est encore très, très mal perçu, très mal connu au Canada, aux États-Unis. Quand on parle de l'Afrique, malheureusement, on parle que le côté négatif et il y a du travail à faire et nous, c'est notre engagement. Et je vous remercie infiniment. J'espère que vous serez des nôtres au mois de mars. Là, vous êtes en Allemagne, hein?
Oui, je suis à Berlin.
Oui. Très bien. Alors, vous revenez quand au Canada?
Au Canada, je serai normalement... Je reviendrai pour la permanence à partir du mois de juillet.
Ah, très bien. Alors, on garde le contact. Oui. Merci encore une fois, professeur, et bon mois de l'histoire des Noirs. Je sais que vous, vous célébrez ce mois tout au long de l'année, n'est-ce pas?
Oui.
Au revoir.
Oui. C'est ça, oui.
À la prochaine.
Parlons. Oui, merci beaucoup.
De la misère à ne pas être vénère sur cette terre. Pour l'homme vivre c'est l'enfer. Grâce à Lucifer on vit dans la galère. Donc comment faire dans cette vie pour calmer nos nerfs? Mes chers, je vous le dis, la vie coûte cher. Pour le bien de sa chair il faut être riche comme Cher. Ça m'énerve de voir comment on perd nos pères. Donc j'espère que la paix un jour on la repère. Prière.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM. This CIUT 89.5 Toronto.
Michael Ponge est de retour en studio avec à la une, Michael, l'acte 13 des Gilets jaunes en France.
Légère baisse de la mobilisation, 51 400 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 111 000 disent les organisateurs. Ils étaient 4 000 à Paris où des incidents ont éclaté aux abords de l'Assemblée nationale. Un manifestant a eu une main arrachée, victime selon un témoin d'une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre. Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron joigne la parole aux actes, comme le dit ce Gilet jaune avec sa pancarte à la main.
Alors j'ai mis en chemise blanche, le roi Macron s'écoute parler. Des grands débats partout, on le voit, il est très fort en parole, en discours, en palabres. Mais oui. Par contre, nous on attend surtout des actes concrets, rapidement, pour ceux qui ont du mal chaque jour à joindre les deux bouts. C'est ça que en fait les Gilets jaunes revendiquent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très peu de retraite, des bas salaires, ou qui sont au RSA, qui ont vraiment des difficultés au jour le jour à vivre. C'est ça l'urgence. Et on trouve que M. Macron, dans les débats, il est très fort pour s'exprimer, mais les gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est du concret au jour le jour, pour survivre. Les handicapés, par exemple, ont très peu pour vivre. L'allocation adulte handicapé, je crois que ça tourne autour de 800 euros. Ils devraient avoir beaucoup plus. Et l'autre côté, l'évasion fiscale, on sait les chiffres, c'est-à-dire que c'est 80 milliards d'euros en France par an. Et c'est un crime social et écologique. Parce que c'est de l'argent qui est volé pour la justice sociale, pour les services publics et pour la transition écologique. Ça, il faut vraiment le dénoncer, quoi.
Des propos recueillis par Christine Zibert. Les Serbes, eux, sont à leur 10e samedi de protestation. Ils étaient encore des milliers hier à Belgrade pour dénoncer les dérives autoritaires du président Aleksandar Vučić. Le vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini, reçoit ce dimanche à Rome une délégation représentant Juan Guaido, le président vénézuélien par intérim autoproclamé. L'Italie est jusque-là l'un des quelques pays européens à ne pas l'avoir reconnu.
Les forces arabes kurdes soutenues par Washington en Syrie ont lancé leur dernier assaut contre le groupe État islamique.
Ultime bataille pour reprendre les 4 km carrés encore occupés par quelques 600 djihadistes dans la province de Deir ez-Zor. L'ouverture du 32e sommet de l'Union africaine ce matin à Addis Abeba, le Rwandais Paul Kagame passe les rênes à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les chefs d'État assisteront aussi au premier discours du nouveau président de RDC, Félix Tshisekedi. Ce sommet sera par ailleurs consacré aux déplacements forcés sur le continent. Les avocats de Renault dénoncent les dérapages de Nissan. Dans une lettre adressée à leurs homologues japonais, ils s'indignent des méthodes utilisées pour interroger des salariés du constructeur automobile français. Selon le journal du dimanche, Nissan et ses avocats ont cherché en France des éléments confortant l'accusation contre Carlos Ghosn, le PDG de
Radio Mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle que vous écoutez Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde à ne pas rater. Aujourd'hui, nous recevons plusieurs invités. Nous allons avoir aussi, ou nous allons mettre du soleil dans vos assiettes ou dans votre assiette. Et nous attendons notre deuxième invité vers 12h30, professeur Gertrude Mienda, qui enseigne à l'université York College Glendon. Elle est directrice de l'Institut Harriet Tubman pour la recherche sur l'Afrique. Et nous allons faire un petit détour à Paris. Cette année encore, c'est Daphné Burki qui était la maîtresse de cérémonie de la 34e édition des Victoires de la Musique. La soirée mettait notamment à l'honneur Aurel San, le rappeur canéen, compté ainsi parmi les grands favoris de la soirée, grâce à son album « La fête est finie » et à ses 3 nominations dans les catégories « Meilleur concert »,« Meilleure création audiovisuelle » et « Chanson originale ». Et tout de suite, nous allons passer notre partenaire en médias, RTL, l'édition 2019 des Victoires de la Musique, qui s'est déroulée vendredi à la scène musicale à Paris. Quels sont les gagnants des Victoires de la Musique 2019? Découvrez l'ensemble des résultats avec RTL.
Les Victoires de la Musique consacrées à la jeune génération cette année. Jeanne Haddad, Angèle et Big Flo et Oli sont repartis avec 2 trophées chacun. Une soirée de chant, de pop, de rock et de surprises. Eddie De Preto ou Chris sont repartis bredouille. Charlotte Prudhomme, Virginie Kolasinski et Eleonore Vanel. If you rise
with the sun, we'll rise. Avec Radiate, Jeanne Haddad irradie la scène. Elle est la grande gagnante de la soirée, doublement couronnée, artiste féminine de l'année et album rock, la chanteuse en percée mou.
Ça fait un petit moment que je sais pas exactement, c'est pas tellement réel tout ça.
J'ai eu la chance de faire un métier qui me passionne, que ça arrive, c'est fou.
Autre double sacre de la soirée, l'artiste belge Angèle. Tout, il faudrait tout. Album Révélation et meilleur clip pour tout oublier. L'occasion pour elle et son frère Romeo Elvis de renfiler sur scène leur tenue de ski emblématique.
Il est fait très très chaud, Mais quand j'y repense, on s'était tellement marré que je suis vraiment, vraiment contente. On a fait ce clip vraiment en famille.
Une cérémonie clairement sous le signe de la famille. Pour le prix de l'album de musique urbaine, Big Flo et Oli envoient sur scène leurs parents.
Bonsoir à tout le monde.
Qui partagent leur parcours difficile.
Pour un ancien clandestin, à moi aussi on me disait « rentrez chez vous ». Moi je préfère rester chez moi.
Au milieu de la foule, sur sa pancarte, il est écrit « rentrez chez vous ».
Et la moisson des grands V en cristal se poursuit pour le duo de frères toulousains, consacré aussi artiste masculin de l'année.
C'est très agréable, c'est comme le bac quoi. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait très très plaisir.
Toute la soirée, les jeunes talents ont été mis à l'honneur, comme Clara Luciani, nommée révélation sur scène.
J'espère que ça me permettra d'avoir un peu plus confiance en moi. Ça, ce serait une belle victoire.
Sur les bords de mer, je pense à toi.
Et Boulevard Désert pour la meilleure chanson originale.
Je me dis que toi aussi.
Une soirée également marquée par le numéro 13, comme le nombre de victoires d'Alain Bachung. 10 ans après sa mort, l'artiste glane un ultime trophée.
Merci pour lui.
Récupéré avec émotion par sa femme.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Oui, les victoires de la musique. Est-ce que vous étiez là devant votre petit écran, mesdames, messieurs? Et nous allons passer justement à un des lauréats, des gagnants. Je vous laisse découvrir. Vous envoyez votre message à popourri@cut.fm pour voir si vous reconnaissez cette voix. Et à ne pas rater, ne pas oublier, le mois de l'histoire des Noirs, jusqu'à la fin du mois de février, plusieurs activités se déroulent sur notre territoire, à Montréal, à Gatineau, dans la ville de Québec. Allez voir la programmation complète de tous nos partenaires sur www.popourrishow.com. Histoire, réalité, enjeux et perspectives d'avenir pour les Noirs de l'Ontario et du Canada. Et la question du dimanche, amenée à Québec en 1628 par l'envahisseur anglais David Kirk, alors qu'elle était enfant, cette personne est la première, selon les archives, à être arrivée directement d'Afrique pour devenir le premier ou la première esclave africaine. Hein? A. Harriet Tubman. B. Olivier le Jeune. C. Juan Rodriguez. Et D. Josiah Henson. Faites vite, popourri@cut.fm. Allez, je vais voir si vous pouvez découvrir le nom de cet artiste.
Yeah. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé 3 fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille. Dans le premier train, le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des puces, on bloque des routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie, de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo.
performances brillantes, les artistes se sont succédés sur scène pour interpréter leurs titres phares de l'année. Et là, vous entendez actuellement un groupe que j'aime bien, Big Flo et Oli, dont les parents n'ont pas caché leur émotion. Et tout de suite, nous allons entendre des artistes, ils étaient plusieurs, à rendre hommage à Charles Aznavour lors des Victoires de la Musique. Un extrait.
For me, formidable. You are my love, very, 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 very véritable.
Désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est un peu de tout. You are the only one for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. How can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes lips, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as rien compris, tant pis, ne t'en fais pas.
Tout au long du mois de février, Popourri Show vous propose des rendez-vous inédits en compagnie de spécialistes, d'historiens, des artistes aussi exceptionnels de la diaspora africaine, antillaise, vivant au Canada, en Haïti ou en Afrique ou en Europe. DJ Devera, Sloan Ballant, Eric Kader vous donnent rendez-vous. Allez sur le site www.popourrishow.com et si vous avez un événement ou des activités que vous organisez, dont on n'est pas au courant, vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Nous aurons notre professeur de l'université York, Collège Glendon, qui sera des nôtres, Gertrude Mienda, qui nous écoute peut-être sur la route quelque part, nous envoyer des petits messages, merci. Et oui, une décennie consacrée aux personnes d'ascendance africaine, cela se termine en 2024. Et saviez-vous que quand la ségrégation a pris fin, dans nos écoles surtout, au Canada, connaissez-vous la dernière école ségrégée qui a fermé ses portes au Canada? C'était en 1983, en Nouvelle-Écosse. Eh oui, la ségrégation raciale a été présente dans tous les aspects de la vie sociale de la société canadienne, malheureusement. Quoique n'ayant jamais été officiellement inscrite dans la loi, elle existait néanmoins officieusement dans la façon d'agir des gens et dans la perception qu'ils avaient de la place que devaient tenir ceux qui n'étaient pas d'origine européenne. 1983. Eh oui, être noir, on ne pouvait pas nécessairement résider dans tous les quartiers. Eh oui, il y avait des Blancs qui n'aimaient pas les Noirs au Canada. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Cela a fait longtemps partie du paysage canadien. Et cela persiste encore. Parce qu'il y a des groupes d'extrême droite qui ont peur, une peur bleue des associations qui militent pour les personnes d'ascendance africaine ou antillaise au Canada. Des études le démontrent, des articles existent. Je n'invente absolument rien. Les écoles sont sans doute les lieux tout indiqués pour que les Canadiens se découvrent, communiquent leurs idées, les développements et embrassent les thèmes, les mêmes valeurs. Eh oui, elles influencent aussi les jeunes et leur inculquent les connaissances qui leur permettront de devenir des bons citoyens. Longtemps considéré comme le centre intellectuel du Canada, la façon dont l'Ontario allait traiter cette imposante population de nouveaux arrivants noirs allait guider et inspirer le reste du pays. C'est l'Ontario qui accueillit le plus grand nombre de ceux qui avaient emprunté le chemin de fer clandestin en quête de liberté en raison de sa position géographique par rapport à la rivière Détroit, au lac et l'Ontario. Mais aussi parce que c'était une région anglophone. Au plus fort du premier mouvement pour la liberté de l'Amérique du Nord, qui prit la forme du chemin de fer clandestin, fut adopté la Common Schools Act, qui permettait la création d'écoles séparées. Prévue au départ pour séparer les écoles selon leur appartenance religieuse, c'est-à-dire séparer les écoles protestantes des catholiques, elle fut en fait appliquée pour rétablir des écoles séparées pour les Noirs, surtout dans les régions de la province où les abolitionnistes n'étaient pas légion. Il n'y eut pas d'école séparée à Toronto, mais il y en eut dans le sud-ouest de l'Ontario, à Windsor et à Chatham, Kent, plus particulièrement. Dans de nombreux cas, les familles noires ne voulaient pas nécessairement que leurs enfants aillent dans des écoles réservées aux Noirs, mais furent obligées de les y envoyer après avoir essuyé le refus des écoles de quartier, à savoir l'école réservée aux Blancs. C'est en 1965 que la dernière école destinée aux enfants noirs ferma ses portes en Ontario. Située près de Chatham, à Merlin, elle fut fermée à la suite des pressions exercées par des Afro-Canadiens. D'ailleurs, à la même époque, les écoles séparées fermèrent progressivement leurs portes et la dernière à fermer ses portes au Canada fut une école en Nouvelle-Écosse en 1983. Et oui, rapidement sexualisée, discriminée, invisible, les femmes noires et français s'expriment. Et oui, elle était à Montréal l'année dernière pour présenter son documentaire « Ouvrir la voie ». Réalisatrice militante Armandine Gay donne la parole aux femmes noires de France, mais aussi du monde.
Être une femme noire, c'est un vrai souci, parce qu'on a toutes les discriminations qui se... En tout cas, toutes les projections, tous les clichés qui s'ajoutent.
Que je me faisais une joie de colorier, d'ailleurs. Je suis un peu tarée. Moi, je saccageais un peu mes coupes.
Je donne souvent l'exemple de la fétichisation sexuelle. Tous les fantasmes qui existent sur les femmes noires, quand on nous dit « Ah, mais vous, les blagues, vous êtes trop chaudes », ou quand on nous dit « féline, panthère, gazelle », qu'on nous ramène toujours aux animaux. Et ça, ça commence très tôt. Moi, les premières fois où j'ai entendu des choses comme ça, j'avais 14 ans, j'étais même pas encore active sexuellement. Donc, se retrouver avec des hommes de l'âge de mon père qui me disent « Ah, toi, tu dois trop aimer le sexe », c'est hyper traumatisant. Et ça, en fait, c'est quelque chose de partagé par beaucoup de femmes noires.
À un moment, à Noël, la poupée noire elle était cachée, la Barbie noire était cachée parmi les 150 poupées blanches qui étaient gymnastes, médecins, et l'autre, elle était juste noire, quoi. Elle avait pas de profession.
Moi, je suis Barbie noire.
Il y a une des filles qui racontait qu'elle a passé plusieurs tours des entretiens pour une entreprise où, en plus, elle avait déjà été en stage, justement, dans un autre service. Les personnes qui lui ont fait passer les entretiens, elles lui ont dit, écoute, pour nous, c'est super, on te rappelle en fin de semaine, on doit juste voir avec notre N+2, tout ça. Puis là, plus aucune nouvelle. Et donc, elle se demande un peu et elle avait gardé des amis dans l'entreprise. Donc, elle appelle une amie qui lui dit, écoute, je te rappelle ce soir. Et puis, la fille la rappelle en lui disant, écoute, je suis vraiment désolée. Mais en fait, quand ils ont présenté ta candidature au N+2, il a dit, oh non, non, moi, j'ai déjà eu une noire dans le service. Ça s'est pas bien passé, je veux pas de noire. Et du moins, je me disais, bon, effectivement, c'est compliqué. Parce qu'en plus, on est comme les représentants de notre communauté. Si quelqu'un disait « Non, mais moi, j'ai déjà eu un roux dans le service, je ne prends plus des roux », on trouverait ça ridicule.
Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black, 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 black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Tu peux pas, tu peux même, c'est, pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir.
Quelle est la raison pour laquelle vous dites black? Est-ce que c'est vraiment parce que vous baignez dans la culture afro-américaine? Et donc, pour vous, il y a cette idée que les noirs, c'est cool, c'est le hip-hop, je ne sais pas, et c'est pour ça que vous dites black? Ou est-ce que c'est parce que quand même, vous avez un petit malaise à prononcer le mot noir? Puis si vous avez un malaise à prononcer le mot noir, pourquoi?
Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail, oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter.
En fait, ce n'est pas censé être une insulte, c'est censé être ce qui nous décrit. Mais en France, même dire blanc, ça peut être choquant. Et ce ne sont pas juste des mots. Et donc, essayons d'expliquer au grand public pourquoi leur malaise vis-à-vis du mot noir est politique et a une histoire qui est liée, en tout cas selon moi, à notre histoire coloniale et à notre histoire esclavagiste.
Oui, merci beaucoup. Très, très, très intéressant, mais il faut voir le film, le documentaire. Répondez correctement à toutes les questions du mois et courez la chance de gagner un prix de votre choix, de nos partenaires. Allez sur notre site pour tout savoir. Et oui, emmené à Québec en 1928 par l'envahisseur anglais David Kirk, alors qu'elle était enfant, qui est cette personne qui est devenue la première esclave africaine? A. Harriet Tubman. B. Olivier Lejeune, c'est Juan Rodriguez, des Josiah Henson. Nous attendons votre réponse à popourri@cut.fm. Et oui, là, je vais aller directement avec cette grande dame de la Guadeloupe qui vit en France maintenant. Elle a un succès énorme avec son salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie qui s'est tenu cette année du 1er au 3 février à Paris Expo, porte de Versailles, un vrai festival de découvertes culinaires qui a connu un vif succès grâce à la première femme chef de cuisine née en Guadeloupe, restauratrice, animatrice de télé. Elle a le sens de l'humour, Babette Derosière, qui cette année a offert un salon encore plus gourmand et plus festif. Elle nous présente, je pense, une petite recette pour mettre du soleil dans votre assiette. Et elle nous a envoyé aussi un message de remerciement à tous les partenaires de la Guadeloupe, mais aussi d'autres pays outre-mer et des partenaires français qui ont contribué au succès de ce quatrième salon culinaire et francophone. Et aujourd'hui, Babette Derosière vous donne ses astuces pour cuisiner un millefeuille salé au crabe, croustillant et délicieux. À vous, Babette.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un millefeuille croustillant de crabe avec des crudités. Très facile comme d'habitude, parce que vous savez, dans la cuisine de C'est à vous, la cuisine est toujours facile. Alors pour cela, bien sûr, il nous faut de la bonne chair de crabe. Je vous ai pris de la chair de tourteau, c'est facile. On en trouve maintenant chez le poissonnier déjà décortiqué. Les avocats, moi j'aime particulièrement les avocats pays, comme on appelle chez nous en Guadeloupe. Mais là, j'ai pris des petits avocats. Il faut simplement enlever la chair. Et lorsque vous enlevez la chair, vous l'écrasez à la fourchette et vous l'assaisonnez. Sel, poivre, si vous n'aimez pas les épices, c'est très très bien. Mais attention, j'ai un petit secret, on met une pointe de sucre. Et là, ça rehausse le goût de l'avocat. Lorsque vous avez la crème d'avocat, vous mettez de côté. Ensuite, vous prenez votre feuille de brique, vous coupez en triangle. Vous badigeonnez de beurre et vous mettez au four pendant 10 minutes. Ça devient croustillant, comme des ailes de papillon. Et là, il n'y a plus qu'à nettoyer et apprécier. Enfin, mettez comme il faut le crabe. L'assaisonner, sel, poivre, un peu de piment, comme vous souhaitez. Et après, on n'a plus qu'à monter le millefeuille en mettant une couche d'avocat, une couche de crabe, une couche d'avocat, une couche de crabe. Et on termine par un petit peu de feuilleté. Et vous servez avec un petit peu de crudité. C'est simple, c'est bon et c'est pas cher et c'est formidable.
CIUT 89.5 Toronto. Chaque semaine, écoutez les magazines de RFI.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com.
Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Laissez parler les gens tout au long du mois de février. La semaine prochaine, nous recevrons Dr Youssouf Kalogo, et docteur en génie de l'environnement et de l'université de Kent en Belgique. Il vit à Toronto, il fait des choses très intéressantes. Il vient d'écrire, publier un livre l'année dernière, oui, fin de l'année 2018. Et bien sûr, nous célébrons Wesley, ce jeune artiste haïtien qui vit à Montréal et qui est nominé pour Juno au mois de juin, je pense, au Canada, avec son album Rapadou Créole. Et si vous avez des activités dans votre région, dans votre territoire ou encore à Toronto, vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Et aussi, n'oubliez pas que le mois de la francophonie s'avance à grands pas. Et merci à tous ceux et celles qui ont répondu, qui nous ont envoyé leur logo, qui veulent être partenaires pour cette édition 2019. Tout au long du mois de mars, soyez parmi nos invités, nos partenaires, et faites partie du mois de la francophonie avec nos partenaires sur les 5 continents. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message. Vous voulez vous associer à nos émissions spéciales tout au long du mois de mars, popourri@cut.fm. Et oui, quelques mois, quelques faits saillants dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Connaissez-vous l'histoire de votre pays? Connaissez-vous l'histoire du Canada? La première personne noire recensée à mettre à pied au Canada fut Mathieu Dacosta, un homme libre embauché en tant qu'interprète pour Samuel de Champlain lors de son voyage de 1605. Le 20 août 1619, les premiers Noirs arrivent à Jamestown, en Amérique du Nord, britannique. Le premier navire d'esclaves africains à se rendre en Amérique du Nord, britannique, atterrit à Jamestown en 1619. Vous saviez pas ça? Garçon, esclave, premier résident noir en Nouvelle-France, premier esclave africain. Ben là, je vais vous donner la réponse de notre jeu concours. C'est pas juste, hein? Alors j'en passe. Mars 1685, le Code noir. Eh oui, en 1685, le Code noir de Louis XIV permettait l'esclavage à des fins économiques seulement et établissait des principes directeurs qui gouvernaient strictement le traitement des esclaves et le droit de propriété de leurs propriétaires. Le Code noir se limitait officiellement aux Antilles et bien qu'il ne fût jamais entériné en Nouvelle-France, il servit de droit coutumier. Et Louis XIV approuve de façon limitée l'esclavage en Nouvelle-France. C'était le 1er mai 1689. Et oui, le roi Louis XIV de France accorda une permission limitée aux colons de la Nouvelle-France de garder des Noirs et des Pawnees comme esclaves. Se plaignant de la pénurie de domestiques et d'ouvriers disponibles, les pionniers avaient fait appel à la couronne pour obtenir la permission de devenir propriétaires d'esclaves. D'ailleurs, il y a un article très intéressant sur les Noirs de la Nouvelle-Écosse et qui réclament des terres. C'est à lire absolument sur le site de Radio-Canada. Dans un instant, notre prochain invité de la région de Toronto, professeur, sociologue, écrivaine, elle fait des choses très intéressantes à ne pas rater.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI. Tout un monde.
Et oui, elle est professeure agrégée au programme des études des femmes et de genre, sociologue, féministe, africaniste, chercheuse francophone africaine et directrice de l'Institut Harriet Tubman pour la recherche sur l'Afrique et ses diasporas au Collège Glendon, Université York. Quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes africaines en termes de préjugés et de discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique ? La religion, le sexe, la langue, parmi les questions qu'on va aborder avec notre prochaine invitée, professeur Gertrude Mianda. Qu'elle est avec nous, professeur Gertrude Mianda, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Oui, alors je sais que vous êtes sur la route en ce moment ou vous êtes bien à domicile ?
Non, mais non, je suis rentrée à domicile.
Ah ben, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Comme vous savez, pendant tout le mois de février et à chaque année, nous avons cet intérêt pour faire découvrir l'Afrique, sa diaspora, les Antilles aussi, parce que c'est un peu les mêmes luttes. Et puis-je vous poser la question, quel regard portez-vous sur le mois de l'histoire des Noirs, surtout en cette année, en 2019?
Bon, un regard d'espoir.
Oui.
D'espoir, parce que je pense qu'on peut contribuer à changer ce monde, contribuer à la, pas à la perfection, mais à rendre ce monde beaucoup plus équitable pour tout le monde. Et je pense que quand on regarde en arrière l'histoire de Noir, c'est une histoire d'espoir, de courage. Alors je pense que ça doit nous guider, nous permettre, nous inspirer plutôt, d'aller de l'avant, même s'il y a encore de barrières. C'est pas la même chose qu'il y a des années. Il y a quand même un certain progrès qui se fait, qui se pointe à l'horizon. Alors il faut penser avec ça.
Vous êtes professeur agrégé dans le programme d'études sur le genre et les femmes au campus de Glendon, de l'Université York, la troisième plus grande université du Canada basée à Toronto. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, dont on parle souvent ces temps-ci. Et vous êtes directrice, alors ça, pour les auditeurs, ils connaissent moins cet institut, l'Institut Harriet Tubman pour la recherche sur l'Afrique et ses diasporas, qui fait partie d'ailleurs de l'Université York. Alors, parlez-nous un petit peu de votre fonction et de cet institut.
Bon, l'institut a été créé en 2007 par un historien, le professeur Paul Lovejoy, et on a donné le nom de Harriet Tubman, juste pour se rappeler que Harriet Tubman était d'abord abolitionniste et féministe. Elle est née dans les Maryland en 1820 et elle a Elle s'est libérée de l'esclavage par elle-même à l'âge de 25 ans, où elle a marché à pied jusqu'à Philadelphie. Et en 1851, elle avait déjà atteint, elle était à Sainte-Catherine, proche de Toronto ici. Mmh. Et elle allait conduire les esclaves, libérer les esclaves, et dans ce qu'on a appelé Underground Railroad. Et alors, en 10 ans, oui, elle avait libéré au moins 300 esclaves. Alors, c'est un peu ça, en mémoire d'elle. On a baptisé le centre Thomann à son nom pour l'honorer un peu, pour lui rendre hommage, en fait.
Et nous sommes très fiers d'avoir une francophone, une africaine, qui est maintenant directrice de cet institut. J'espère que les gens vont faire leurs recherches pour étudier vos œuvres, mais aussi des projets, des conférences. Hein. Vous organisez des conférences, des recherches.
Oui, exactement.
Oui. Alors, bravo pour ça. Je pense que c'était l'année dernière, hein, ou l'année d'avant que vous avez été nommée directrice.
Merci bien, oui. C'était au 1er juillet 2018. Mmh. Et comme vous venez si bien de le dire, c'est la première fois qu'une femme d'origine noire, d'origine africaine, parce que avant moi, il y avait ma collègue qui est d'origine jamaïcaine. Et moi, je suis la première femme venant de l'Afrique. L'Afrique noire est en plus une francophone. Et Thomann a été, disons, jusque-là un peu unilingue anglophone. Et ce que moi j'amène, c'est une dimension aussi francophone, une perspective d'une femme d'origine africaine aussi. Mais... Et alors, je pense que ça élargit un peu notre audience.
Vous savez, depuis plusieurs années, ça fait 40 ans environ que je suis là, je vois que les personnes d'origine africaine prennent une partie très engagée, enfin prennent part d'une façon très engagée dans toutes ces questions de sociales, par exemple, ces débats au niveau de l'immigration, au niveau de la diversité aussi des études. Oui. Et nous venons d'accueillir un professeur africain, justement, qui enseigne à l'Université d'Ottawa. Et puis, pour le lancement de notre mois de l'histoire des Noirs, c'était professeur Amadou Ba, qui est un historien, qui réside à North Bay, qui lui aussi est très engagé dans cette question. Comment expliquer que, justement, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas sur la place publique, dans nos médias officiels, et que vous faites des choses très intéressantes pour cette compréhension et bâtir ce Canada qui est en développement constant, hein, on le sait. Comment expliquer cette absence, justement, de ces leaders, de ces voix comme la vôtre sur la place publique?
Mais je pense que notre histoire, en comparant aux autres Noirs au Canada, est quand même une histoire récente. C'est depuis les années 60. Avec le système de points que de plus en plus des Noirs d'origine africaine ont pu venir. Alors je pense qu'on a encore une histoire assez récente. Et si on est dans le milieu anglophone, la francophonie est encore assez minoritaire. Et je pense que c'est peut-être dû à ça. À cette invisibilité aussi, invisibilité d'être... Mmh. Bon, j'ai dit invisibilité d'être noir, on est très visible, mais dans cette visibilité, on est quand même invisible. Donc, il faut se battre ou bien chercher à se faire entendre.
Alors, vous vous intéressez aussi à la recherche sur le genre et le post-colonialisme en Afrique, en particulier sur les femmes congolaises. Vous dites, je cite, « Cela met en lumière comment le colonialisme et son héritage façonnent les expériences des Congolais, des Congolaises. » Et parlez-nous un petit peu de ces études, parce que vous avez fait plusieurs études, hein, d'ailleurs, des recherches sur le viol de filles et de femmes à Kinshasa. ainsi que sur les enfants nés de la guerre en République démocratique du Congo. On en a parlé à cette émission, mais aussi il y a eu des documentaires, les médias en ont fait mention. Parlez-nous un petit peu de votre intérêt pour mettre en lumière justement sur ces catastrophes humanitaires.
De façon générale, je pense que notre expérience de coloniser est encore marquée par l'expérience coloniale. D'une façon ou d'une autre, notamment les femmes, on ne peut pas dire seulement c'est marqué par notre tradition. Il y a la tradition, mais il y a aussi une colonisation qui a été tout à fait patriarcale. Et cela, je pense, nous a marqué toute la population et c'est rentré dans la mémoire collective. Et on reproduit ça. Bon, ça, c'était notre aspect. Maintenant, de lier les viols à l'expérience coloniale, bien sûr, mais c'est un problème, c'est très complexe. Les viols qui se sont perpétrés à l'est du Congo, je peux le mettre dans, si on peut le mettre dans le, parler de l'expérience coloniale du Congo, et le Congo est un marché ouvert. Alors, nous sommes en pleine mondialisation, et mondialisation économique, vous savez très bien que le Congo regorge de toutes ces matières premières qui sont en vue, qui sont tellement convoitées. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier les viols de ce recours à cette recherche de minerais par des continents africains interposés. Mais qui sont derrière les continents africains? Et c'est dans ce sens-là que je dis, c'est une deuxième colonisation du Congo qui se fait en utilisant les Africains. Et violer les femmes, ça veut dire laisser les champs libres. Parce que quand on viole les femmes, on détruit la communauté et les gens ont peur. Les gens vont se cacher, on laisse l'espace libre pour pouvoir exploiter le minerai. Bien sûr, il y en a qui vont dire qu'il faut lier ça à la culture congolaise. Et là, je trouve même que c'est une lecture raciste de penser que les Congolais violent. Et pourquoi pendant tout ce temps, il n'y avait pas autant de viols? De mon enfance, on a connu la guerre du Chaba. On a connu Chaba 1, Chaba 2. Bon, c'est sûr qu'il y avait eu des viols, comme il y a des viols partout au monde quand il y a des guerres. Mais est-ce qu'il y avait de viols aussi systématiquement organisés et violer les gens comme on les fait? Et la guerre ne s'arrête pas depuis. Donc il y a bien d'autres raisons économiques derrière cette guerre. Je pense que le chaos qui se vit au Congo, c'est un chaos voulu, organisé. C'est ma lecture, en fait, et je pense qu'il y a de faits pour corroborer cette lecture.
Avez-vous de l'espoir avec le changement de présidence au pouvoir au Congo, République démocratique du Congo, qui s'est effectué récemment? Avez-vous un peu d'espoir pour l'avenir?
Laissons le temps. C'est le temps, on ne peut pas immédiatement, en quoi, 15-20 jours, apporter un jugement. Maintenant, s'il faut apporter un jugement sur les élections, c'est justement teaser le feu tout simplement. Bon, laissons le temps, on va voir comment ça se passe. S'il y avait des choses à redire, bon, la politique, surtout la politique en Afrique, est-ce que l'Afrique est vraiment indépendante politiquement? Ce sont des points d'interrogation.
Alors, vous avez aussi mené des recherches sur les femmes qui ont brisé le plafond de verre en République démocratique du Congo. Mais ici aussi, au Canada, on en a beaucoup parlé, aux États-Unis, la lutte des femmes continue, le combat se poursuit, surtout avec le mouvement, moi aussi, MeToo, qui a eu des répercussions incroyables, hein, on en voit. Et ici, en Ontario, vous avez parlé aussi, vous avez fait des études, je pense, des recherches sur les communautés francophones en situation minoritaire en Ontario, sur l'immigration, par exemple. Parlez-nous un petit peu justement des avancées ou des reculs et votre perception sur justement la place de la femme noire, de l'immigrante noire ici en Ontario.
Oh, elle doit encore se battre beaucoup parce que bon, quand on regarde au niveau de l'immigration comme telle, les femmes noires, on est dans la catégorie de minorité visible. Et si vous voulez examiner cette minorité visible de plus près, les personnes le moins qui n'ont pas d'avantage, ce sont les femmes noires qui sont au bas de l'échelle. Vous pouvez regarder les femmes noires de façon générale, hein. L'équité salariale, elle ne bénéficie pas de ça. L'accès au travail est encore... Où est-ce qu'on retrouve les femmes noires? C'est dans des secteurs tertiaires. Ne parlons pas de femmes exceptionnelles de la minorité qui émerge. Moi, je vois, je pense à la grande majorité de femmes. Où est-ce qu'elles se situent, ces femmes-là? Et là, maintenant, si vous voulez aller maintenant dans la francophonie minoritaire, examiner la situation des femmes noires et des femmes noires francophones d'origine africaine. Où est-ce qu'on va les retrouver beaucoup plus concentrées? C'est dans le système scolaire. C'est dans le soin de santé. Et dans le système scolaire, vous allez les retrouver beaucoup plus comme des remplaçantes. Il y en a très peu qui ont des emplois permanents. Elles sont là pour remplacer et payer comment? Et vous allez les retrouver dans les secteurs de la santé. Elles sont ce qu'on appelle ici en Ontario le PSW majoritairement. Mmh. Ça veut dire qu'elles doivent encore se battre. Et à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas toutes des qualifications pour percer. Elles arrivent ici. En général, on nous dit que les femmes immigrantes arrivent en moyenne, au moins avec un diplôme de premier cycle, dans la fourchette de l'âge de 24 ans à un peu plus 30-40 ans. Elles arrivent avec au moins, en majorité, d'après les statistiques, avec un diplôme de premier cycle. Mais elles sont obligées parfois de se déqualifier.
Professeur Gertrude Mianda, là, vous revenez sur un débat qui a eu lieu 20 ans, 30 ans, en 2019. On en parle encore, des gens m'appellent et ils ouvrent leur cœur sur leur souffrance. C'est incroyable, incroyable ce qui est en train de se passer. Et je suis tellement content de voir que, comme les autres invités, vous n'avez pas peur de parler et surtout d'apporter des statistiques, des chiffres. On n'invente absolument rien. Et je vais vous faire entendre. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, il y a un grand centre, un organisme très connu ici, dont je n'aimerais pas le nom, qui a embauché une première femme noire, africaine, comme directrice. Mais les gens n'oublient pas qu'il y a eu scandale et puis il y a eu des problèmes majeurs qui étaient dans les médias. Et c'est à partir d'une crise qu'on a apporté peut-être une correction. Mmh. Et qu'on a placé une personne. Alors, il faut bien comprendre l'histoire pour comprendre les événements. Je vais vous faire entendre brièvement Isabelle Bonny Clavery, qui est noire. C'est une réalisatrice en France, mais ça pourrait se transposer aussi à Toronto. Trop noire pour être française. On écoute un extrait.
Comme si je venais forcément d'ailleurs. Est-ce parce qu'en me voyant, on ne se doute pas que mes arrière-grands-parents sont blancs? Ou parce que dans l'imaginaire commun, un Français, c'est un blanc?
Tu sais que tu es noir quand tu attends un ami avec qui tu as rendez-vous juste à côté d'un pub et que tous les clients qui arrivent te prennent pour le videur en te disant « Bonsoir, c'est pour manger, bonsoir, c'est pour boire, bonsoir, on est deux » et que tu leur réponds « Bah non, désolé, c'est pas moi ce soir. »
Tu sais que tu es blanc quand un ami à toi se fait contrôler plusieurs fois dans la semaine par la police alors qu'on ne te demande jamais rien à toi. Tu sais que tu es blanc quand on ne te demande jamais si ton pays te manque, si tu ne souffres pas trop du froid. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à devenir des blancs? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez?
Eh oui, incroyable. Et en 2019, il y a encore ce débat. qui se poursuit dans notre communauté, dans nos sociétés. C'est incroyable. Comment expliquez-vous cela, professeur Mianda?
Le privilège, quand on est privilégié, on ne se rend pas compte peut-être de ce privilège-là qu'on a du mal à comprendre quelqu'un qui est moins privilégié, qui vit cette réalité-là chaque jour. Comme femme noire, combien de fois je me présente comme professeur, les gens sont en train de tiquer.
Ah, oui.
Professeur. Mais c'est parce que je suis noire. Si j'étais une femme blanche, professeur, ça va de soi.
Incroyable. Alors, vous savez, on pourrait passer des heures et des heures avec vous parce que vous êtes tellement riche en événements, mais aussi au niveau de l'histoire, de votre engagement. Et vous avez tellement sans doute d'autres choses à nous partager. J'espère qu'au mois de mars, nous allons célébrer à notre façon, une fois de plus, le mois de l'histoire, le mois de la francophonie, tout au long du mois de mars. Et si cela vous intéresse, vous pourrez devenir être parmi nos invités et aussi être notre partenaire régulièrement à l'émission, parce que je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, ce que vous avez vécu, mais aussi au niveau de vos projets. Alors, je sais qu'il devait se passer une conférence le 14, mais qui a été annulée au Collège Glendon.
Oui, ma collègue a eu un problème de la dernière minute, mais c'est seulement reporté. On va l'organiser prochainement.
Oui. Alors, au nom de toute l'équipe, peut-être un dernier message avant de quitter les ondes pour les auditeurs qui nous écoutent.
Moi, je pense garder espoir et encourager toutes les personnes noires de foncer, de parler, surtout ne pas se taire. Oui. Il faut briser le silence. Quand on brise le silence, on se fait voir, on se fait entendre, on a des choses à dire, on a une contribution à apporter dans cette société, à cette société. Donc, il faut garder espoir et foncer.
Alors, restez avec moi. Je vais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Professeur Kasereka Kavwa-I-Rei, qui nous appelait de Berlin aujourd'hui, l'Allemagne. Et je remercie aussi tous ceux et celles qui ont aidé à façonner cette émission, entre autres le chanteur, comédien et humoriste Saïdou Abacha, qui est d'origine camerounaise et qui vit à Marseille, en France, et DJ Devera, Sloan Ballan, RFI, RTL, France 24 et Radio France Internationale. Professeur Gertrude Mienda, un grand merci et je vous souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. Merci. Du fond
merci
du cœur d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Merci.
Au revoir et à la prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ne pas oublier, nous avons un professeur ingénieur qui sera des nôtres, monsieur docteur Colongo. Ici Eric Adel, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.